Eh bien, bonsoir à chacun d'entre vous pour cette nouvelle année. Merci d'être venu malgré les problèmes de transport, malgré le froid, la bise qui fut venue. Et donc, on est ravis de reprendre une troisième année, en fait, autour de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. Alors, vous avez vu qu'on a préparé un programme qui alterne un petit peu, mais... Donc tu vas nous en parler tout de suite de ce programme en tout cas. Donc bienvenue à chacun d'entre vous pour ce temps de partage de la Bible. Alors moi je suis particulièrement content que ça se fasse à plusieurs voix. Et parce qu'il me semble, si vous voulez, que le texte biblique en lui-même est intéressant quand il est lu d'une manière, je dirais, plurielle, avec, pour prendre en compte la multiplicité des sens de l'Écriture. Et que c'est comme ça qu'on rend justice d'abord au texte biblique, mais plus largement à Dieu lui-même. Alors les rabbins disent, ou disaient, je ne sais pas, que chaque lettre de la loi, enfin, chaque lettre de la Bible, a 70 interprétations. Et que c'est quand, finalement, chaque personne de l'univers tout entier, dans ces milliards d'individus, et puis à travers aussi les multiples générations... Chacun aura donné son interprétation personnelle de chaque passage, de chaque mot. Alors, eh bien, le sens de l'Écriture pourra enfin révéler un peu quelque chose de la gloire de Dieu, finalement. Alors, c'est en même temps, bien sûr, c'est un peu une façon de parler, une blague, si je puis dire. Mais ça appelle à justement aller creuser le sens et aller au-delà de simplement. Le premier sens que l'on peut trouver immédiatement, le sens qui va être noté dans, j'allais dire, les livres pour enfants, mais c'est un petit peu péjoratif pour les enfants, mais qu'à travers ces deux voies, déjà symboliquement, il y ait pluralité de lecture pour vous inviter à avoir, non pas celle de l'un ou de l'autre, mais votre lecture, celle qui va peut-être donner l'occasion à Dieu de donner sa parole. C'est vrai qu'on a une lecture... de la Bible qui est là aussi, surtout dans ces études bibliques, finalement, dans ces groupes bibliques où on décortique un petit peu, on a une lecture où eh bien, on se place au-dessus du texte finalement, on essaye de chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, qu'est-ce qu'il y a derrière les expressions, quelle est la culture, comment on peut décortiquer un petit peu. Alors ce n'est pas à ce moment-là, la Bible n'est pas pour nous en elle-même parole de Dieu, si vous voulez, c'est dans la lecture de ce texte que chacun, je dirais, dans un esprit de prière, peut-être s'ouvrir à une parole particulière que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et donc là encore, ça invite à aller au-delà peut-être même de l'interprétation, qu'à travers notre propre interprétation, on puisse donner une chance, si je puis dire, à Dieu de nous apporter... Le supplément d'être, le supplément de force, le supplément de chair à notre cœur qui va nous permettre vraiment d'avancer. Alors c'est ce que je nous souhaite pour ce soir, pour votre lecture personnelle entre-temps et pour notre année ensemble.
Merci Marc pour cet accueil donc à l'Oratoire du Louvre. Vous savez que tout au long de l'année, on va se retrouver au cours de 8 séances, 4 à l'Oratoire du Louvre et 4 à Saint-Eustache en alternance. Donc vous trouverez à l'entrée le programme de ces alternances et vous verrez que cette année, on a décidé de se promener de ville en ville, un peu à la manière de Jésus avec ses disciples, de parcourir les villes. Alors pourquoi les villes ? Lorsque, avec Marc, nous nous sommes retrouvés pour faire un petit bilan de nos deux années de parcours biblique, la première année, c'était assez simple avec Paul, puisque nous avions suivi les lectures de Paul, alors que l'Église catholique lançait une grande année Saint-Paul, qui était relayée par diverses propositions. L'an dernier, nous avons parcouru la Bible de part en part sur le thème de guerre et paix dans la Bible. Et cette année, nous cherchions un sujet transversal, un sujet qui rejoigne aussi nos préoccupations quotidiennes. Et au cours des sujets, bien sûr, liés à la crise financière, liés aux problèmes sociaux, il nous est apparu que la ville représentait un sujet non négligeable d'ores et déjà à travers la Bible. Alors, du coup, on s'est un petit peu penché sur le problème de la ville. Et notamment, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons des temps assez nouveaux par rapport à la ville parce que un rapport de l'ONU Habitat en 2007 a révélé que pour la première fois, la population mondiale se trouvait majoritairement citadine. C'est-à-dire qu'il s'agit là du développement sans précédent de la ville aux quatre coins du monde et qui pose toute une série, vous le savez, de problèmes d'inégalités territoriales, de logement, de transport, de l'environnement et autres. Et on sait qu'aujourd'hui, la question de la ville est devenue l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Or, si l'on se penche sur la Bible elle-même, on s'aperçoit que c'est une question très forte dès le début. Et dès le début, dans le livre de la Genèse, la ville est vue avec méfiance. Nous nous souvenons l'an dernier d'avoir affronté Caïn et Abel et de voir que Caïn, homme de violence, devenait, en Genèse 4, le premier constructeur de ville. Et puis apparaissent Babel d'un côté, Sodome de l'autre, des lieux où les humains poursuivent une mauvaise autonomie en oubliant la source même de leur existence. Et voilà que, à l'encontre de ces tentatives mauvaises, c'est Abraham, toujours dans le livre de la Genèse, qui vit comme un pèlerin en route vers d'autres horizons avec la foi pour boussole et le déplacement, qui est contraire à la ville même. Alors ensuite, c'est une ville qui fait son apparition, Jérusalem, la cité de la paix, qui est fondée non pas sur cette auto-glorification de l'homme, mais bien sur la promesse, et qui montre que la foi n'est pas en dehors des réalités terrestres, mais qui peut exister dans un vivre ensemble, dans une justice et une solidarité. Mais voilà que ça ne fonctionne pas tellement. Et voilà que Jérusalem peut manquer à sa vocation, que ses habitants ne suivent pas le Seigneur. Et voilà que la fille de Sion est de nouveau profanée en quelque sorte, avec Isaïe, avec les prophètes. Et voilà que l'on attend toujours un roi juste envoyé par Dieu pour purifier cette ville. Et nous le verrons à travers les prophètes. Et puis, il y a Jésus. Il y a Jésus dont le cheminement vers Jérusalem est très connu. Hein. Il passait de ville en ville, de village en village. Et voilà que cet homme est rejeté. Il est rejeté hors de la ville. C'est ainsi qu'il meurt sur le Golgotha. Et il n'établit pas de royaume terrestre. Et finalement, après lui, les chrétiens sont des gens qui demeurent des étrangers et des voyageurs. Et la problématique de la ville se poursuit à travers tout le Nouveau Testament. Et finalement, le dernier livre de nos Bibles décrit l'histoire humaine comme l'histoire de deux cités. D'un côté, cette Babylone impressionnante de puissance et de gloire, mais qui disparaîtra en un clin d'œil dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, cette nouvelle Jérusalem, fondée sur tous les pères, sur les apôtres, une cité de Dieu qui n'est pas encore manifeste pour nous. Et des communautés d'hommes et de femmes qui se créent. Ce qui fait que Dieu s'exprime souvent dans une apparente faiblesse qui est souvent reconnue de peu de gens. Mais il se soucie de l'ensemble de la société. Et donc les chrétiens, à la suite de la Bible, ont le droit et le devoir d'élever la voix pour défendre la justice, pour protéger la ville, pour créer cette communauté. Alors, nous allons voir ces cités bibliques à travers les exemples de Babel, de Jéricho, de Nazareth, de Capharnaüm, de Jérusalem, de Ninive et d'Athènes, ce qui nous fera un certain nombre de voyages. Mais bien sûr, ces voyages ne sont pas simplement géographiques, ce sont des voyages spirituels. Nous allons commencer ce soir avec la ville qui se bâtit. Et nous verrons qu'elle connaît tout de suite des limites à Babel. Construire une ville, un beau projet ou finalement un péché. Et puis ces villes fortes, ces villes impressionnantes, ces villes mythiques comme Jéricho, qui sont tantôt des villes obstacles, tantôt des villes refuges. Alors, il y a la ville de Nazareth, cette ville un peu obscure, où finalement il s'avère que nul n'est prophète en sa cité, avec un Jésus qui n'a plus de pierre où poser sa tête, sans feu ni lieu. Et puis nous irons voir Capharnaüm, cette fameuse ville au bord du lac, cette ville finalement qui reçoit bien des reproches. Est-ce que finalement on peut dire que dans les villes, Jésus prêche dans le désert? Est-ce que son échec apparent est celui de la ville? Enfin, Jérusalem. Jérusalem qui a autant d'idoles que de rues. Jérusalem, la ville de la paix de Dieu, mais aussi la ville de la folie des hommes. Nous irons la regarder avec le prophète Jérémie. Jérusalem, enfin, la ville sainte qui descend du ciel, la Jérusalem céleste, celle de l'Apocalypse. Et nous pourrons nous demander si la cité nouvelle est bien de ce monde. Enfin, une ville qui peut se retourner comme Ninive, avec Jonas. Nous irons voir si la ville sera bien sauvée ou si la ville sera détruite et pourquoi. Et puis enfin, avec Paul, nous terminerons notre voyage à Athènes où nous découvrirons Dieu dans la cité, mais dans la cité des dieux, avec cette ville qui reste à bien des égards à la fois mythique et biblique. Donc nous commençons ce soir dans une lecture à deux voix. Comme d'habitude, nous en ferons d'abord une lecture littéraire en recourant à la traduction de la Bible offerte par Bayard que nous allons lire dans quelques secondes. Puis ensuite, nous verrons un peu comment le texte fonctionne de manière linéaire, je dirais en le suivant de manière extrêmement, sur le texte hébreu, de manière extrêmement simple. Et puis enfin, nous pourrons le parcourir ce texte et en débattre, comme vous en avez l'habitude, en se questionnant mutuellement, dans ce que l'on pourrait qualifier non pas d'une lecture catholique ou d'une lecture protestante, mais bien d'une lecture chrétienne à deux voix. Et bien souvent, nous voyons que nous nous renvoyons la balle et qu'on ne sait plus très bien dans quel camp se trouve la balle. Donc, commençons d'abord par entendre ce texte.
Alors, mon ami, le texte, l'interlinéaire hébreu-français, c'est un petit peu pour faire joli. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément l'hébreu. C'est plus difficile que le grec, en tout cas. On connaît souvent même pas tellement l'alphabet. Mais c'est pour la beauté de ces lettres. Et puis quand même, à travers le mot à mot, finalement, eh bien, on peut voir peut-être quand même un petit peu eh bien, ce qui a été rajouté dans la traduction et ce qui existe plutôt quand même dans le texte hébreu. Alors, comme l'hébreu se lit de droite à gauche, hein, donc on commence, les fils de Noé, selon leur engendrement dans leurs nations. Vous voyez, il faut lire de droite à gauche, et puis ensuite, de ligne après ligne. Donc il y a la fin du chapitre 10, parce que, ça a quand même un petit peu d'un rapport avec le début du chapitre 11, qui commence d'ailleurs par un « et », donc ça se raccroche à la phrase qui précède. On sait que le découpage en chapitres et en versets, c'est pas non plus quelque chose de forcément très très ancien. Donc on a mis un tout petit peu la fin du chapitre 10, et puis jusqu'au verset, la fin du verset 11. Alors on va d'abord peut-être avoir la lecture grâce à notre lectrice professionnelle et bénévole en même temps de notre passage. Merci beaucoup.
Jusqu'où ?
Jusque là.
On lève le camp de l'Orient, on trouve une plaine où s'installer dans le pays de Shinéar. Chacun dit à l'autre « Ah, fabriquons des briques et des fours pour les enfourner. » La brique est leur pierre, le bitume leur mortier. Ils disent « Ah, construisons-nous une ville et une tour, sa tête touchera le ciel. Faisons-nous un nom, et nous ne serons jamais dispersés sur toute la terre. » Yahweh descend pour voir la ville et la tour construite par les fils de l'Adam. Yahweh dit « Tous ensemble, ils commencent à ne faire plus qu'une seule bouche et qu'une seule communauté. Rien ne leur sera impossible. » Ah, descendons tout brouillés dans leur bouche, que chacun ne comprenne plus la bouche de l'autre. Yahweh les disperse sur toute la terre, ils arrêtent de construire la ville. On l'appelle Babel, car ici Yahweh a tout brouillé dans la bouche de toute la terre, et de là a fait se disperser tout le monde sur toute la terre.
Merci beaucoup. Alors, on a mis comme introduction, est-ce que c'est un bon projet ou est-ce que c'est un péché ? Parce qu'effectivement, quand on regarde ce texte, c'est pas si clair, finalement, que ce soit un péché. Alors c'est vrai que c'est un peu ce qu'on dit, si vous voulez. On dit, quand on regarde, c'est un texte qui est extrêmement connu, quand on se promène au Louvre, on peut voir des tableaux qui représentent la tour de Babel qui est en train de s'écrouler. On connaît ce tableau de Bruegel l'Ancien qui est très connu. Et c'est vrai qu'on connaît surtout la tour de Babel. D'ailleurs, dans la traduction œcuménique, hein, le titre qu'ils ont mis, l'intertitre, c'est « La tour de Babel ». Ce qui est assez étrange parce que la tour, c'est presque anecdotique, c'est plutôt, comme tu le disais, Hervé, c'est plutôt en fait la ville qui est en cause. C'est la ville qui semble être importante et c'est la ville qui s'arrête d'être construite à la fin du texte. Donc c'est bien ça qui est fondamental, c'est cette ville, le projet qui est derrière. Mais c'est pas si clair que ce soit un péché, en fait. Si on regarde de près, c'en est peut-être un, c'en est peut-être pas un. C'est pas marqué, en tout cas, tellement. Ou alors, il faut le deviner derrière le texte. Et c'est, si vous voulez, c'est déjà l'ambiguïté du texte. Et ça se retrouve très souvent dans la Bible, en fait. Le texte est ambigu. Le texte peut avoir plusieurs sens. Et c'est un petit peu comme, vous savez, ces dessins, on appelle ça Jean qui rit, Jean qui pleure. On peut regarder un dessin dans un sens, on voit un monsieur qui grimace, et dans l'autre sens, un monsieur qui rit. Ou bien on voit... ou bien une sorcière, ou bien une jeune fille. Vous savez, ces dessins qui sont un peu ambigus. Ben, c'est la même chose pour ce texte. Et je crois que ça, c'est intéressant, parce que on peut lire chacun de ces passages, chacun des mots de ce texte, on peut dire, tiens, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un péché ? Par exemple, construire une ville avec une tour au milieu qui va vers le ciel. Ben, on peut le lire comme un orgueil contre Dieu, en disant, ben, on va essayer de... Voilà, on écarte Dieu de notre existence et on va, avec notre industrie humaine, avec notre solidarité aussi, eh bien, on va essayer de se passer de Dieu, voilà, de construire notre propre élévation, aller jusqu'au ciel sans Dieu. Alors, ça peut être à ce moment-là un péché comme on peut le voir, par exemple, dans la chute, dans le récit d'Adam et Ève, qui, voilà, avec ce serpent qui représente donc la tentation intérieure, ce qui est... mauvais en chacun d'entre nous, la tentation d'être soi-même son propre Dieu, qui leur dit, mais non, pas du tout. Si vous mangez le fruit interdit, vous serez comme des dieux, à la place de Dieu, autrement dit. Donc peut-être que c'est encore ce péché-là, mais dans un autre sens, on peut voir quelque chose de très bien derrière ça. Ils ont un projet, ils sont ensemble, ils construisent une ville, ils sont vraiment unis, et au milieu de leur industrie humaine, au cœur même de leur communauté, eh bien, ils font une place pour Dieu, pour penser à Dieu comme une dimension de verticalité au milieu de leur projet qui, sinon, serait vraiment au ras des pâquerettes, vous comprenez. Donc, on peut y voir, toujours dans ce texte, pratiquement dans chaque passage, on peut y voir quelque chose, soit de négatif, soit de positif. Soit un péché, soit au contraire un beau projet, je dirais, vraiment de foi, d'union à Dieu, de vocation, de sainteté. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous voulez, du coup, ce texte, on peut le lire comme un peu un outil, comme un miroir qui nous permet de nous poser des questions, d'interroger notre projet. Tiens, telle chose que j'ai le projet de faire aujourd'hui, telle facette de mon Église, de ma personnalité, de mes projets, oui, est-ce que c'est vraiment un péché? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est égocentrique? Ou bien est-ce que c'est un beau projet? Et finalement, le même acte peut être soit source de mort, soit source de vie, soit une réponse à la vocation de Dieu, soit au contraire une rébellion contre Dieu. Le même acte, le même projet, voilà. Et donc, je crois que du coup, ça peut nous permettre aussi de toucher, si vous voulez, comment marchent ces textes bibliques, et puis pourquoi est-ce que c'est si important de lire la Bible soi-même? Parce que personne ne peut, à notre place, ressentir ce choc de l'Écriture, voir notre propre visage grâce à l'Écriture, si vous voulez. Personne ne peut le faire à notre place. Alors on peut effectivement tirer la leçon de ce texte en disant, voilà ce que le texte nous dit, attention, vos projets ne doivent pas être rébellion contre Dieu, éliminer Dieu, son existence. Bon, ça, on le savait déjà avant. Donc, si on met à plat le sens du texte, the sens du texte, ben, ça devient une bonne petite leçon de morale de base, une bonne petite leçon de catéchisme de base. C'est pas du tout pour mépriser ça, il le faut aussi, si vous voulez. C'est des fondamentaux, il nous le faut aussi. Mais au-delà de ça, ce qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus fin, c'est savoir, bon, où est-ce que j'en suis concrètement, moi, aujourd'hui, par rapport à ces fondamentaux? Eh bien, dans cette lecture, et c'est là peut-être qu'il faut une lecture priante, que là non plus, on ne va pas faire ce soir, finalement. Parce que ça, personne ne peut le faire, comme le dit Jésus, hein, dans l'introduction au Notre Père, hein, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6. Voilà, pour ça, il faut rentrer dans sa chambre et dans le secret, pratiquer ça dans la prière, finalement. Parce que ça ne marche que cela seul, ou alors peut-être en couple, face, ou alors peut-être en Église, pour ce qui se concerne l'Église. Mais bon, c'est l'entre-soi dans une lecture priante du texte, pour voir où on en est. Mais ce soir, peut-être en décortiquant, on va se donner des outils pour que ensuite chacun puisse vivre ce face-à-face, je ne sais pas.
Alors là, Marc, tu viens de parler notamment de la lecture individuelle de ce texte. Et effectivement, on a tous à retirer pour nos projets personnels, pour notre environnement, un souffle de ce texte, de ces textes. La première chose, c'est qu'il s'insère, comme d'habitude, dans une histoire plus large que celle-là. Nous n'oublions pas que nous sommes dans le livre de la Genèse et que il y a déjà eu, et nous nous en souvenons, les soucis d'Adam et Ève, de Caïn et Abel et de leur descendance. Et puis Noé, et nous venons d'avoir Noé avec ses fils. Et nous voilà donc dans une situation donnée où effectivement la terre entière se sert de la même langue et des mêmes mots. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une lecture individuelle et personnelle et il y a une lecture collective et historique. Précisément, Marc parlait du miroir, de l'effet de miroir. On ne peut pas ne pas penser à la mondialisation et à tous les récits que nous avons d'une certaine uniformisation des cultures, d'une certaine mondialisation, d'un empire consumériste, etc. Et à ce moment-là, nous nous apercevons bien que cela a déjà été pensé, que cela a déjà été projeté. Et que si les auteurs de la Bible avaient en ligne de mire les grands empires de Mésopotamie, il ne faut pas oublier effectivement les Babyloniens, il ne faut pas oublier tous ces empires. Hein. Vous savez qu'Israël est toujours au milieu, soit du côté de l'Égypte, soit du côté des autres, et puis que ça descend et que ça monte sans arrêt, et qu'à chaque fois, il se trouve au carrefour. Et que donc, voilà qui peut faire penser des hommes sur la capacité et la réalité de ces grands empires. On peut d'autant plus y penser que le grand projet romain a détruit aussi beaucoup de choses, a voulu uniformiser tout un monde, et il a échoué comme tous les grands empires d'ailleurs. Et probablement qu'on peut regarder ça à l'aune de, encore une fois, de toutes nos échelles internet, de mondialisation, de globalisation, d'uniformisation. Et là, je crois qu'il y a des choses qui peuvent un petit peu nous, à la fois nous donner envie de participer à ce grand projet mondial, à cette ouverture qui détruit les frontières, abolit les différences, et en même temps de se souvenir que les plus grands totalitarismes se sont développés sur de tels projets. C'est-à-dire que ce texte, comme les autres, peuvent servir de garde-fous personnels et collectifs. Et nous allons voir que, effectivement, c'est toute l'ambiguïté de ces textes, parce que c'est toute l'ambiguïté de nos situations, qui sont à la fois positives. On ne peut pas rejeter une globalisation et une mondialisation en bloc. On ne peut pas faire comme si on allait rester tous divisés, tous distincts, avec des langues que personne ne comprendrait, etc. En même temps, il faut savoir que toutes les utopies d'aplatissement de toutes les différences conduisent, peu ou prou, à la situation d'une Babel. Et je crois que la ville nous offre ce même type de miroir, avec à la fois tous les intérêts d'une ville et tous les défauts, tous les problèmes qu'il faut affronter, et j'allais dire même tous les écueils auxquels il faut s'opposer dans une vision collectiviste, généraliste de l'humanité. Et donc à chaque fois, il y a à la fois cette tension entre l'individu et l'universel, entre l'individuel et l'universel, et à la fois cette lutte pour que l'individu continue d'exister, la personne, et sans doute aussi le rapport à l'altérité, parce que là on voit que l'initiative purement humaine conduit les hommes à leur perte, et qu'il y a une intervention de Dieu, qu'on peut trouver curieuse d'ailleurs, puisque là il y a vraiment un anthropomorphisme, mais qui a un sens, car il s'agit là d'un projet qui dépasse le simple projet politique ou stratégique de l'homme. Donc je crois que avec toutes ces précautions et avec toutes ces volontés, ça vaut la peine d'aller creuser ce texte, d'aller un peu extirper les différentes idées qu'on peut y trouver, et puis sans doute de rebondir d'une phrase à l'autre.
Alors c'est vrai que ce texte est peut-être le troisième grand mythe, si vous voulez, dans la Bible. En général, dans nos églises, on s'entend pour dire que l'histoire commence avec Abraham, qui est juste après ce texte. Mais qu'avant, c'est des grands mythes bibliques, c'est-à-dire des contes théologiques qui permettent d'évoquer ce que c'est que, voilà, en grands traits, avec quelques grands contes, grands mythes comme ça, d'évoquer les fondamentaux, si vous voulez, de l'humain et de Dieu. Voilà. Alors il y a le premier grand mythe, c'est Adam et Ève, avec la création. Le deuxième, Caïn et Abel, ça rentre encore un petit peu dans cette saga, si je puis dire. Le deuxième, c'est l'histoire de Noé et du déluge. Et le troisième, c'est Babel. Alors, c'est vrai que le premier, c'est l'histoire d'une création, d'un beau projet, et puis du péché de l'homme et de la femme, avec Adam et Ève. Ensuite, il y a finalement le péché aussi, la question de la jalousie qui est posée avec Caïn et Abel, avec cette violence qu'on retrouve encore. Finalement, le premier, c'était la violence contre Dieu, dans un sens, peut-être, avec Adam et Ève. Ensuite, la violence entre frères, avec Caïn et Abel. Noé, l'histoire de Noé est douloureuse aussi, c'est-à-dire que ça commence avec une humanité entière, finalement, qui n'est que violence et meurtre, sauf Noé, le juste, qui représente la figure du juste qui est présente en chacun, finalement. Donc cette lecture, si vous voulez, un peu imagée, elle est extrêmement ancienne, de reconnaître en Noé une figure, un type du juste. On l'avait peut-être, je ne sais pas si on l'a vu ensemble, je ne crois pas, on a vu Caïn et Abel. Donc avec Noé, il y a 8 personnes qui sont sauvées. Vous verrez, il y a une exégèse de l'apôtre Pierre dans la première lettre de Pierre sur cette histoire de Noé qui compare ça à notre baptême. Donc voilà, Dieu garde le meilleur finalement de l'humain, ce qui est parfait dans l'humain, et balaye avec une gigantesque chasse d'eau, si je puis dire, l'humanité violente, mauvaise et meurtrière. Alors ça aussi, c'est absolument horrible, mais à mon avis, enfin, en tout cas la relecture chrétienne le relie comme le baptême, c'est-à-dire cet amour de Dieu qui vient purifier en chacun de nous le péché pour garder ce qui est l'enfant de Dieu qui est en chacun et reprendre un nouveau départ. Ça, donc c'est comme ça que l'ont compris les chrétiens depuis toujours, mais ce n'était pas les chrétiens qui l'ont inventé, cette lecture, bien sûr, elle était présente déjà dans le texte même, la lettre même du texte hébreu, bien sûr. Encore maintenant, donc avec Babel, on entre dans la suite de cette histoire, finalement. Il y avait cette violence, on repart avec un tout petit reste, finalement, avec Noé et ses enfants, donc huit personnes qui évoquent, à travers ce chiffre 8, peut-être la vie nouvelle, la vie éternelle, la vie selon Dieu. Et donc vous voyez à la fin du chapitre 10, voilà, il y a cette réponse à la vocation qui est donnée à Noé et à ses fils. Eh bien, d'abord de ne plus vivre comme avant, de vivre en paix avec Dieu, Dieu avec son alliance, l'arc-en-ciel, promettant de ne plus exterminer l'humanité, mais au contraire de se souvenir toujours de sa bénédiction. Et puis la vocation qui est donnée à l'humanité de remplir le monde, de se multiplier, de grandir aussi, et puis de soumettre la terre, c'est-à-dire de la gouverner. On peut voir ça peut-être plus positivement, hein, que simplement l'écrabouiller, comme nous l'avons peut-être, enfin, sans doute, trop fait. Donc il y a l'idée d'une humanité qui ne vit plus de violence, ni contre Dieu, ni contre ses frères, et qui est responsable du monde, responsable d'une croissance, responsable d'une évangélisation, mais c'est un anachronisme, hein, c'est responsable de remplir la terre, de diffuser finalement cette alliance de Dieu et alliance avec ses frères, hein, dans le fait de ne pas tuer son prochain et de ne pas non plus gaspiller la vie des animaux, ce qui est compris dans l'alliance avec Noé. Alors nous voilà donc au début de ce chapitre 10, chapitre 11, avec cette humanité qui est, on pourrait dire, enfin réconciliée dans un sens. Enfin réconciliée, puisque toute la terre est une seule lèvre, une seule bouche, hein, et des paroles uniques. Et ils sont en trajet, ils partent de l'Orient, nous dit le texte, hein, ou alors ils se déplacent vers l'Orient. Bon, ça c'est un peu discutable, hein, qu'est-ce qu'ils mettent dans l'hébreu, là, ils mettent... quand ils partaient de l'Est, donc ils partaient de l'Orient, je ne sais pas pourquoi la Tob a mis qu'ils partaient vers l'Orient. Vous voyez, comme quoi, c'est toujours un peu ambigu, si vous voulez, hein, cette histoire. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé comme ça, c'est étonnant. Mais, donc, moi, ce que je connaissais, c'est qu'ils partaient de l'Orient, ils partent du... Alors, ça aussi, on peut le lire positivement ou négativement, hein. L'Orient, on pourrait dire, c'est là où le soleil se lève, donc c'est les commencements, c'est le commencement, hein. C'est le début de quelque chose, et donc ils repartent du début, on pourrait dire, parce que je sais pas, l'Orient, c'était là qu'il y avait le jardin d'Éden, est construit en Orient, non? Mais en même temps, l'Orient, c'est là où s'enfuient les pêcheurs, hein, aussi, je sais pas, donc ça peut être ambigu, si vous voulez, cette histoire. De partir de l'Orient, ça pourrait être aussi bien partir de quelque chose de positif, repartir du début, repartir de ce qui est ancien aussi, hein, quitter ce qui est ancien peut-être, hein, parce que l'Orient, c'est le même mot en hébreu, Orient et ce qui est ancien, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de jeux de mots en hébreu comme ça, hein. Donc ça pourrait être positif. En même temps, quand ils s'arrêtent dans la vallée de Shinéar, ben ça, c'est d'abord le terme de vallée, enfin c'est plutôt une faille, une coupure. C'est pas le mot classique pour vallée, mais quand même, c'est négatif ça, quand même. C'est quelque chose de creux, d'enfoncé, ça évoque quelque chose de sombre et de mauvais. Alors, Shinéar aussi est peut-être pas très bien vu, parce que Shinéar, on le voit au chapitre d'avant, je crois, c'est Nimrod, le fils de Caïn, qui construit ça. Nimrod, c'est un peu trouble, un peu sombre quand même, cette histoire. C'est quand même des histoires de, là encore, de violence, de péché. Donc, Schinner, c'est sûrement négatif. Mais là encore, on peut le comprendre de deux façons. On peut dire, ils choisissent exprès, partant du soleil levant, ils choisissent exprès d'aller dans l'ombre, dans le péché, de s'enfoncer dans une faille. On peut le voir comme une descente. On peut le voir aussi, ils recommencent finalement, ils repartent de la lumière. Et ils croisent un moment d'une faille, une coupure, un moment sombre, un moment difficile. Et comment est-ce qu'ils vont réagir? Donc c'est pas forcément quelque chose de péché, c'est pas forcément, ça peut être aussi une épreuve, ça peut être une difficulté, ça peut être une... Vous voyez, c'est pas forcément connoté péché. Là aussi, on peut se poser la question, sans doute. Quand il vient un moment difficile dans notre existence, c'est savoir y reconnaître notre part, peut-être, de faute et de péché, peut-être. De se dire, voilà, qu'est-ce qui, dans cette difficulté que je vis aujourd'hui, est dû à une coupure avec Dieu, est dû au fait que je m'enfonce la tête dans le sable plutôt que de regarder la lumière, est dû à une vie mal posée, mal placée, peut-être aussi en se désolant pour des choses qui en fait, n'ont aucune raison d'être désolantes. Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est vraiment un moment de difficulté et donc ce n'est pas dû à ma faute, ce n'est pas dû à mon péché, c'est peut-être dû à la maladie, au chaos de la nature, c'est peut-être dû à... Et comment est-ce que je vais réagir? C'est une question. Là encore, c'est une question qu'on peut se poser à travers ce déplacement et cette faille, cette coupure. Voilà. Et donc on peut y lire à la lumière de notre existence, soit par la repentance, soit par simplement la constatation du mal qui existe en ce monde, la souffrance qui existe en ce monde. Et donc, dans les deux cas, un appel à un projet, voilà.
Alors, effectivement, si on regarde le texte de près, les trois premiers versets, on a quand même un projet. On part de la terre entière, et c'est la terre qui se sert d'une même langue et des mêmes mots, donc d'une certaine harmonie, on pourrait penser, d'une certaine unité. On ne sait pas si c'est encore l'uniformité, mais en tout cas, il y a une certaine unité. Et il y a un déplacement, il y a un mouvement, il y a une volonté, comme s'il fallait sortir de l'ennui ou justement de la routine. Et donc, il y a un mouvement et une découverte, la nature est livrée à l'humanité et l'homme découvre, il découvre une plaine et il décide d'y habiter. Bon. Et il y a à ce moment-là quelque chose entre les hommes d'assez positif. Ils se dirent l'un à l'autre, c'est pas ils se firent la guerre l'un à l'autre ou ils se murèrent les uns les autres. Et ils décident de construire. Là encore, on était dans la Mésopotamie, on était dans les grands empires, on est dans tous ces ziggourats qui sont construites tout au long des pays. Et qui sont ces villes-cités, qui sont ces villes de regroupement humain. Bon. Mais il y a quelque chose qui, pour le lecteur de la Bible, attire l'attention. C'est quand même l'idée de faire cuire au four, et on insiste beaucoup là-dessus, des briques. Et si l'on est un bon lecteur de la Bible, on a le souvenir que c'est précisément ce que les esclaves feront bien après lorsqu'ils seront au pays d'Égypte, c'est-à-dire que là encore, dans un très mauvais pays, très mal vu, on est d'un côté du côté de Babel, Babylone, et l'autre Babel, l'anti-Babel, je dirais, de l'autre côté, c'est l'Égypte. C'est aussi catastrophique pour l'homme. Et voilà-t-il pas que ces hommes, livrés à eux-mêmes, j'ai envie de dire, entre eux, se mettent à avoir des projets qui sont exactement les mêmes que les pires dictateurs totalitaires qui obligent le peuple hébreu à faire des briques et à construire toute la journée, à en mourir. Et donc, il est question d'ailleurs, c'est très technique, les briques leur servent de pierre, le bitume leur sert de mortier, on a l'impression que c'est le progrès, c'est le progrès technique. On passe de l'ère de la pierre à l'ère de la brique, de l'ère de la brique à celle du bitume. C'est très bien, tout ça a l'air d'être... On croirait la révolution industrielle, Et jusqu'à présent, on a l'impression que le progrès, le beau progrès du 19e nous donne voilà, des très belles villes. Le Creusot est en marche, Saint-Étienne, et allons-y, et construisons la France. Mais, voilà que dans leur langage commun, ils se mettent à avoir une idée vraiment étrange. Bon, bâtissons-nous une ville, hein, jusqu'à présent, rien de mal à cela. Mais, cela prend une tournure très étonnante. Une ville avec une tour, très bien. Bon, après tout, il y a des tours de défense, il y a des tours de guet, il y a des tours de provision. Enfin bon, tout est possible. Mais déjà quelque chose d'assez étonnant, une tour dont le sommet touche le ciel. Alors, vous savez que les textes hébreux sont remplis de jeux de mots, comme nous le disait Marc tout à l'heure, et que précisément, en hébreu, le mot Babel a un très, très mauvais sens, puisqu'il correspond en gros au concept de dispersion, de confusion, comme on nous le dit à la fin, hein, c'est là que le Seigneur disperse les hommes, c'est là qu'il brouille. Donc Babel, du côté hébraïque, c'est le brouillage, la dispersion, la confusion. Mais il faut savoir que du côté de l'Acadien ou du Babylonien, c'est la porte du ciel, justement. Babel, c'est la porte de Dieu. Vous reconnaissez quand même ce « El » qui peut avoir un côté très positif, que l'on retrouve dans Elohim et dans tous les « El » possibles et imaginables, tous nos Raphaël, Michel et autres en « El » qui sont des rapports à Dieu. Et donc... du côté babylonien, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que si l'on change de vocabulaire, lorsqu'on a un vocabulaire varié, on passe de quelque chose de très négatif à quelque chose, la porte du ciel, la porte de Dieu, c'est au contraire ce qui peut créer le lien. Ça peut être un temple, ça peut être un magnifique temple en l'honneur de Dieu. Mais là où ça tourne, j'allais dire ça tourne au vinaigre, c'est que au lieu de toucher le ciel pour pouvoir ouvrir la porte à Dieu, le recevoir ou essayer de s'élever, voilà qu'il s'agit de nous faire un nom, précisément pour pouvoir nous enfermer et pour pouvoir devenir des intouchables. En quelque sorte, se faire un nom, c'est se mettre à la place de Dieu et en quelque sorte, ne pas être dispersé sur toute la surface, c'est précisément se rendre intouchable, indestructible, autrement dit, le vieux mythe des hommes qui veulent se passer des dieux. Et bien, il se passera comme il s'est toujours passé quand les hommes ont voulu affronter les dieux, c'est que ça ne plaît pas du tout aux dieux et que les dieux interviennent et que ça finit très mal pour les hommes. Donc on sent dans ce premier, on voit bien là, c'est un premier paragraphe qui est un récit que tu disais, mythique, fondateur. On sent qu'il y a l'histoire de l'évolution de l'humanité sur la Terre, du regroupement, de l'invention de la ville, de l'invention de la maison, des maisons de maçons, dirait l'autre. Vraiment des choses très positives, de l'invention de la technique. Mais ce n'est pas tout d'avoir la technique, ce n'est pas tout d'avoir le progrès. Encore faut-il que tout cela ait un sens et que le sens soit dans la logique de la création et du monde. Or, précisément, il semblerait que le sens, la tournure que prennent les événements ne va pas du tout dans le sens de l'histoire, en tout cas de l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes, et que donc on sent que il y a à la fois un beau projet et il y a à la fois un péché. Alors, je parlais tout à l'heure de cette aspiration au dépassement de soi-même, de ce regroupement collectif. Dans tout ça, il y a des choses très positives, mais effectivement, il faut savoir d'où l'on vient. Et l'on vient là, précisément, de chez Nemrod, qui a créé un royaume violent, qui est centralisé autour d'une capitale, mais qui est tourné vers la guerre et vers l'oppression. Et là, tout est en germe pour faire de Babel la pire cité oppressive, la pire utopie qui conduit au totalitarisme. Donc voilà, on a tous les éléments de quelque chose qui peut basculer en bien et qui peut tomber dans la pire chose. Et j'allais dire, tout est prêt dans le récit pour qu'il y ait une intervention divine.
Alors, je vais essayer de défendre donc la thèse que c'est très, qu'il y a plein de belles choses, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a les deux. Donc, si on reprend le verset 3, ils se dirent l'un à l'autre. Alors là, vous voyez que déjà, moi, je trouve que le fait qu'ils se parlent, c'est déjà pas mal, parce que si vous voulez, la parole, c'est quand même le propre de Dieu. Et ce verbe, donc, amar, que l'on voit ici, si vous voulez, c'est Dieu qui parle, par exemple, à la lumière, qui crée la lumière en l'appelant, si vous voulez. Donc là, c'est pas mal. Et puis, un homme à son prochain, en fait. Vous voyez ce qui a marqué donc, le début dans l'hébreu, là, au début du verset 3. Ça, c'est assez beau, parce que je trouve que, si vous voulez, c'est l'idée même de prochain. Ça, je crois que c'est une notion qui est importante, qu'on voit d'ailleurs assez bien ici, parce que c'est roé. Roé, c'est la racine même du berger, en fait. Ce qui fait que l'homme qui est, ou la femme qui est à côté, est mon prochain, c'est pas que je m'en approche, c'est pas que je me sens proche de lui, c'est pas que ce soit mon voisin, c'est que nous avons le même berger qu'est Dieu, en fait. Nous sommes dans le même... nous avons le même berger, donc nous sommes prochains les uns des autres. Et donc là... D'abord, il est appelé homme, ce qui est quand même assez positif. C'est un homme, un vrai, j'allais dire. C'est pas pour rigoler. C'est pas dans le sens où on peut l'entendre du machisme, mais si vous voulez, c'est quand même un homme, c'est un humain. Voilà, c'est un humain qui parle à son prochain. Il y a l'idée d'une discussion mutuelle où chacun parle l'un à l'autre, non pas comme un ennemi, mais vraiment comme quelqu'un avec qui nous sommes unis parce que nous avons le même Dieu, finalement. Et c'est à ce titre-là, finalement, que l'autre est un prochain. C'est parce que nous avons le même Dieu. Donc ça, c'est dans le texte, ou dans le lettre même du texte. Ils auraient pu mettre ça, ils font un même projet. Non, c'est déjà plus que ça, c'est dans un dialogue qu'ils élaborent, finalement, ce projet commun. Et ce projet, c'est... Allons. Alors, c'est traduit allons parce que c'est vrai que ça peut se traduire comme ça, mais en fait, c'est la racine du verbe donner, c'est-à-dire donnons-nous mutuellement, finalement, ce projet, finalement. Alors, faisons des briques, cuisons-les au feu, parce que ça remplace la pierre et le ciment. Alors, là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez créateur. Il y a l'homme qui est créateur, qui est appelé, comme dans la Genèse, à pas simplement être gardien du paradis, mais à poursuivre l'œuvre de création. C'est-à-dire que l'homme n'est pas placé dans le jardin de paradis simplement pour le garder, mais pour le cultiver et le garder. Contrairement à ce qu'on pense, la création n'est pas achevée, si vous voulez. Elle est en cours, bien sûr. Et on le voit tous les jours avec le chaos qui est dans la nature. On voit un tremblement de terre, on dit « Que fait le bon Dieu ?» Le bon Dieu, il y travaille, j'allais dire. La création est en cours. Il y a encore du chaos primordial dans la nature, donc il y a encore du travail à faire. Dieu travaille à poursuivre son œuvre de création, et puis l'homme est appelé à participer à cette œuvre. Et bien, c'est ce qu'ils font ici, finalement. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de ciment. Ben, on va faire quand même, on va faire preuve d'industrie, on va se mettre ensemble, on va réfléchir, on va partir de ce qu'on a quand même, partir, finalement, l'argile, c'est de la mauvaise pierre, c'est nul, ça coule, c'est mauvais. Bon, on va réfléchir. On a... Ça fait penser à qui est-ce que c'est dit, ça va avec cette force qui est en toi. C'est pas simplement dans la guerre des étoiles. Ça a été repris par la guerre des étoiles pour donner ça aux Jedi. Mais c'est une parole de la Bible, c'est donné à Gédéon, c'est donné à je sais plus qui, à Josué peut-être, enfin, je sais pas. Bref, là, j'ai oublié, c'est dommage. Parce que, on a une force qui est en nous, voilà. On a une terre qui est un peu insuffisante, qui n'est pas finie d'être tout à fait créée. La pierre, elle n'est pas cuite. On a de la pierre en vrac, de l'argile. Il y a une industrie humaine qui est nécessaire pour que la pierre qui n'était pas là, elle soit là. Voilà. C'est quand même... Là aussi, c'est comprendre la vocation divine de l'homme, dans un sens. De se dire, on a les moyens de s'en sortir, tout d'un coup... Dieu est absent, dans un sens, il n'a pas fini son boulot, mais on a tout ce qu'il faut pour arriver à s'en sortir quand même, et l'homme est appelé à poursuivre cette œuvre de création par des médecins, par des ingénieurs, par la solidarité humaine aussi, parce que dans ce dialogue de l'homme avec son prochain, reconnaissant en l'autre un frère, parce qu'on a le même Dieu, on, On va pouvoir s'y mettre, se retrousser les coudes, réfléchir et poursuivre l'œuvre de création de Dieu et s'en sortir. Ça, moi, je trouve ça vraiment, ce verset 3, un exemple un peu de ce que l'humanité pourrait faire. Une humanité qui prend acte de sa sainteté. La sainteté, dans la Bible, ce n'est pas une qualité morale, c'est une vocation. C'est-à-dire, voilà, l'homme n'est pas un animal parmi les autres animaux. Voilà, l'homme a une vocation. Une vocation divine, une vocation de servir à quelque chose dans cette création pour être créateur lui-même. Et c'est ce qu'ils font. Alors, ils se dirent encore, donc ça ne suffit pas, ils continuent encore à discuter et à s'encourager par le don mutuel, finalement, avec ce « allons ». Bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ben, donc ça, c'est ce que je disais, on peut y voir ça tout à fait comme positif. Alors, d'abord, parce qu'il y a encore des jeux de mots hébreux, puisque on a mis l'hébreu, c'est un peu pour dire que ça existe, si vous voulez. Le mot « ville » en hébreu, « ir », c'est sur la racine de veiller, si vous voulez, de surveiller. Alors, effectivement, les villes, c'était d'abord défensif, si vous voulez. Les villes, c'était un camp retranché, en fait, ces villes de cette époque-là. C'était d'abord une muraille, finalement, dans un sens, une coquille vide, une muraille vide pour que le peuple se réfugie quand il y a des ennemis qui arrivent. Donc, une ville, c'est l'idée de veiller. Et la tour aussi, une tour, ben, c'est ce qui permettait. Il y a des tours à Jérusalem. Et quand Dieu, rappelez-vous, c'est une parabole d'Ésaïe, Ésaïe, je ne sais plus, 5 ou 6, je ne sais plus très bien, il y a la parabole de la vigne. Eh bien, Dieu compare l'humanité à une vigne et il a mis autour de la vigne une palissade ou une muraille, je ne sais pas. Et puis, il a donné une tour et un pressoir. Donc, la tour, ça évoque quelque chose de positif que Dieu nous donne pour voir l'ennemi de loin et pour voir les choses de haut, finalement. Donc, on pourrait y voir là, à travers la ville et à travers la tour, l'idée vraiment de voir clair. De voir loin et de voilà par cette union, par cet effort de voir de haut. Alors ce texte, finalement, Dieu est absent dans un sens, mais ça, on le remarque dans notre existence, Dieu est souvent absent. Et très souvent dans la Bible, Dieu est présenté comme absent, non pas ça peut arriver qu'on ait l'impression que Dieu soit absent parce que on le chasse de notre existence. Ça peut arriver, c'est le péché, si vous voulez. Dieu ferait tout pour être présent dans notre vie, puis nous, on le chasserait dehors. Mais l'absence de Dieu n'est pas que le péché. L'absence de Dieu est normale. Dieu est discret, vous voyez. Et donc, si on ne ressent pas tous les jours la présence de Dieu, là, comme une présence bouleversante, nous disant des choses, vous inquiétez pas, même les plus grands saints non plus, si vous voulez, les plus grands mystiques non plus, heureusement. Ce serait insupportable, ce serait Big Brother. Toujours ce Dieu qui est là pour nous dire ce qu'on doit faire, pour nous dire nos fautes, nos choses, ce serait insupportable. Donc non, Dieu est comme là, et souvent on le voit même dans les paraboles de Jésus, Dieu qui, voilà, il donne la parabole de la vigne, c'est un bon exemple, il donne ce qu'il faut pour qu'on se dépatouille, ensuite, Dieu est absent un bon moment, et puis ensuite, il revient quand nécessaire. Donc l'absence de Dieu, c'est pas forcément le péché, ça peut l'être. Donc là aussi, c'est une question qui nous est posée. Cette absence de Dieu dans ces versets, c'est dû au péché de l'homme qui a chassé Dieu, ou c'est dû simplement à Dieu qui nous considère comme ayant un peu grandi et nous dit, écoutez, maintenant, débrouillez-vous, vous avez ce qu'il faut, il y a de l'argile, bon, c'est pas tout à fait bien terrible, mais débrouillez-vous, vous avez les moyens, vous avez du feu, vous avez de l'argile, faites des briques. Voilà, ce Dieu qui nous considère comme adultes, voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être l'un ou l'autre.
Oui, mais il y a la proposition, il y a la liberté qui sont intactes avec la possibilité d'intervenir, j'allais dire un peu comme les parents avec des enfants que l'on laisse, mais en gardant, non pas en les surveillant 24 heures sur 24, mais en gardant une oreille et en vérifiant que d'un coup, il n'y a pas tellement de silence que c'est bizarre. Ah, c'est ce que fait Dieu. Il faut aller voir. Et c'est un peu ce que fait Dieu. Mais Et toi, alors oui, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Je trouve que tu es un peu trop optimiste pour quand même l'action de ces gens de Babel, parce que quand même, on peut se dire que là, tout est possible, en effet. La création est est à leur portée, et je dirais que c'est le cas pour nous tous. Nous avons, et puisque nous gardons cette démarche de la mondialisation d'Internet et des communications, nous pouvons dire que nous avons à notre disposition tous les outils, au fond, pour pouvoir communiquer avec un maximum de gens, pour pouvoir créer, pour pouvoir innover, pour pouvoir relier. Qu'allons-nous faire avec ce dont nous disposons? Et quelles idées avons-nous en tête? Est-ce que c'est d'inventer des choses nouvelles qui rapportent tellement d'argent qu'on puisse, et sans se préoccuper de ce que les adolescents et autres personnes du système vont complètement être écrasés par ce que nous allons proposer, vendre, etc. Et là, on a l'impression qu'il y a du positif, il y a toutes les possibilités. En plus, on s'arrête à un endroit qu'on a choisi, on peut aller plus loin, on décide d'en faire quelque chose, on a la bonne idée de créer des briques et d'utiliser le bitume. Bon, et on peut faire des choses tout à fait positives, bâtir, construire. Mais, quel est le sens? Quelle est la volonté cachée? Et c'est là que ça devient un peu compliqué, c'est que quand même, cette histoire est là pour nous rappeler, vous savez, ce sont des récits étiologiques qui sont là pour nous donner un peu le sens de l'histoire du monde. On veut essayer de démontrer pourquoi tous ces empires, pourquoi ces asservissements, pourquoi toujours la guerre, et pourquoi d'ailleurs ça finit jamais bien, y compris pour les oppresseurs. Alors, l'idée, c'est que, bien sûr, c'est qu'à des moments, le Seigneur intervient, et il donne la nucrède pour combattre Pharaon, il fait arrêter les roues des chars, et il rend victorieux celui qui est le juste. Donc, il y a quand même cette intervention pour remettre un peu d'ordre ou pour remettre un peu d'huile dans les rouages. Et quand même, on sent bien qu'on joue avec le feu, parce que on sent bien que... Si l'utopie, si le rêve est intéressant, si, il y a quand même l'idée toujours de devenir parfaitement autonome. Il y a quand même l'idée, il y a quand même l'idée de ne plus rien devoir à personne. Et j'allais dire de faire ce que l'on veut. Et c'est un peu la différence entre la liberté responsable et la liberté du coup on fait ce qu'on veut. Mais non, la vraie liberté, c'est sûrement pas de faire ce qu'on veut à tout quand on veut. Et je crois que c'est quelque chose qu'on découvre aujourd'hui avec tous les nouveaux moyens d'information, de communication, c'est que justement, malgré tout, il faut respecter un certain nombre de règles, il faut se doter de garde-fous. Alors, on tombe dans des excès, hein, on est en pleine loi Hadopi, etc., etc., et on sait que tout ça est parfaitement dérisoire. Mais n'empêche qu'on sent bien qu'il faut une régulation dans les réseaux, dans tout ça. Et la dérégulation absolue et le chacun fait ce qui lui plaît, ça ne marche jamais. Et là, on voit bien que, en plus, pour une raison que l'on ignore depuis le début de l'histoire, il y a quand même cette histoire de péché, il y a quand même cette histoire de choses noires là, qui est derrière la porte, hein. On se souvient dans Caïn et Abel, qu'on a bien du mal à expliquer, mais qui fait dire à Pierre que même le bien que l'on fait, on ne le fait pas, et le mal que l'on voudrait ne pas faire, on le fait. Eh bien, j'ai envie de dire que l'homme livré à lui-même et se faisant confiance qu'à lui-même, et même dans des beaux projets, malheureusement, se trouve rattrapé par l'appétit de puissance, le pouvoir, l'argent et tutti quanti. Et là, on retombe toujours dans les mêmes ornières. Et alors qu'on est arrivé après Noé, alors que l'on est arrivé à une paix, alors que l'on est arrivé à un espoir et à une espérance, eh bien, on ne peut pas tout faire n'importe comment, même en utilisant simplement tous les moyens que la création nous permet, car nous le savons plus que jamais, les moyens sont immenses et la création a encore énormément de choses à nous proposer. Et on peut devenir les plus grands démiurges et les plus grands créateurs Mais tout ça est extrêmement dangereux s'il n'y a pas de sens et s'il n'y a pas d'ordre derrière tout cela. Et si, au fond, d'une certaine manière, on préserve l'unité, mais surtout pas pour une uniformité écrasante et qui exclut tout, à commencer par Dieu.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce péché, on peut le voir quand même, peut-être, dans « faisons-nous un nom ». Voilà. Alors, ça, c'est peut-être un problème, parce que juste un peu après, avec Abraham, il y a Dieu qui dit à Abraham, d'abord, comme tu le disais très bien au début, il envoie Abraham en mouvement, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas qu'on soit supérieur en étant nomade plutôt que sédentaire, même si c'est mal vu d'être nomade dans notre pays en ce moment, mais cela dit, c'est vrai que, si vous voulez, il y a toujours eu quand même la peur des sédentaires, la peur des nomades, c'est pas inventé d'aujourd'hui, si vous voulez, hein, donc l'idée que donc Dieu envoie Abraham en mouvement et lui dit « Je rendrai grand ton nom ». Voilà. Et donc il reçoit un nom. Et c'est vrai qu'Abraham va se faire appeler Abraham et Sarah va se faire appeler Sarah. Et ça va être fondateur pour eux d'une fécondité possible et pour qu'ils deviennent eux-mêmes bénédiction pour les autres et non pas contre les autres. Alors là, on pourrait y voir effectivement un péché dans la volonté de se faire soi-même un nom. Effectivement, ça peut être quelque chose qui est contre Dieu. Alors effectivement, là, on peut dire faire un nom, ça peut être contre Dieu en disant, ben en fait, je veux pas. Parce que le nom, dans ce contexte, c'est un peu l'identité, la valeur, le projet, la personnalité. Voilà. Donc je peux dire, voilà, non, moi, je veux pas du tout, je compte pas sur Dieu pour me donner mon projet de vie, finalement, pour donner une orientation, un sens à mon existence. C'est pas que Dieu nous guide pas à pas ce qu'on devrait faire. Heureusement, non, on le voit bien ici, cette liberté. Mais c'est vraiment le sens de l'existence, de la vie, la vocation. On dit, ben non, je refuse la vocation que Dieu me donne et je vais me choisir à moi-même, pour moi-même, le sens de mon existence. Ça, c'est quand même un peu un problème parce que c'est pas possible, en fait. Pour le traduire au terme moral... c'est Paul, il dit, bon voilà, hein, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ou alors il dit, ça sert à rien s'il n'y a pas l'amour. Voilà, dans le fameux hymne à l'amour qui est si connu. Donc on peut dire la même chose. Si on a le droit de faire ce qu'on veut finalement, mais il faut que ce soit motivé par l'amour. C'est ce que saint Augustin qui dit, aime et fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça la question. Donc vous voyez, on peut très bien vivre dans l'égoïsme et dans l'égocentrisme total, sauf que notre vie est terriblement mauvaise. Mais à très court terme, on a des relations épouvantables avec les autres, même, c'est invivable, on le sait. Donc c'est la même chose ici, si on se fait soi-même entièrement son nom n'importe comment, c'est un vrai problème. Alors dans un autre sens, on peut voir ça positivement, ils ont chacun des individus, mais en même temps, ils veulent une personnalité de projet, voilà. Et ça pourrait être plus positif. Ne pas disperser, on peut le voir... On peut le voir, voilà, que les individus ne soient pas émiettés aussi. Et ça, c'est peut-être un risque de notre société aussi, hein, où il y a une solitude incroyable, plus grande encore à Paris, je pense, que dans n'importe quel village du fond de la Creuse. Les gens sont très seuls, parce que dans la foule, eh bien, on peut se retrouver infiniment seul. Donc c'est cette peur, peut-être aussi, de ne pas être dispersé, mais qu'il y ait vraiment... Une humanité comme un corps, c'est un peu le projet de l'apôtre Paul, hein, une unité dans la diversité par l'amour, hein, qu'il y ait comme ça un corps. Alors pour nous, notre nom, nous le recevons, c'est le nom d'enfant de Dieu en Christ. Donc à la limite, on ne fait pas notre nom par nous-mêmes, mais dans un sens, quand on veut vraiment vivre par ça, on dit, ben si, on va se donner un nom. Peut-être que l'Église, c'est ça finalement, l'Église, l'institution, c'est de se dire, voilà, on ne veut pas que ça reste simplement virtuel, mais que... ça prenne sens, quoi, et que ce nom, ce soit vraiment par la solidarité, par la circulation de la parole entre nous, on puisse vraiment nous faire ce nom de chrétien, ce nom d'humanité, finalement. Pas simplement un éparpillement, un émiettement d'individus qui serait un chaos d'individus, mais une humanité comme un corps qui a une personnalité, qui a un projet commun, et voilà, ce serait pas mal. Alors effectivement, l'Éternel quand même descend, hein. Alors l'Éternel descend, ça on le voit souvent, hein, on le voit dans la Genèse après le péché. Alors ça, on ne dit pas que l'Éternel descend à ce moment-là. Mmh. Il se promène avec la brise du soir. C'est hyper poétique. C'est... on voit l'éternel Dieu dans les paraboles de Jésus souvent. Hein. Donc il y a les paraboles, par exemple, des talents ou de je ne sais plus quoi. Ou... Bon, voilà, les gens se débrouillent. Après, Dieu revient. Voilà, le maître revient et il fait le plan et il appelle les gens. Et voilà. On le voit assez souvent dans l'Ancien Testament. Il y a Dieu qui se dit, tiens, ben, voyons voir ce que font les hommes. Il descend, il regarde, et il est surpris, finalement. Ça aussi, je trouve que ça remet les pendules à l'heure. On s'imagine qu'il faudrait croire que Dieu a tout prévu d'avance, que tout est tracé, qu'il y a un grand livre dans lequel il est prévu ce que je vais faire demain matin. C'est épouvantable, ça, quand même. C'est pas du tout comme ça, à mon avis. Dieu laisse une vraie liberté à l'homme. Bon, il a un peu d'expérience humaine, il devine un peu ce qu'on va faire, finalement. Donc Dieu est capable de prévoir un petit peu. Mais c'est de la prévision, c'est pas de la préscience, si vous voulez. Même Dieu sait pas ce qu'on va faire, tout à fait. Il devine un peu, mais... Donc, Dieu descend souvent et il est surpris. Il se dit, tiens, pétard de bois, c'est ça qu'ils ont fait. Je pensais pas quand même qu'ils feraient ça. Et ça se voit souvent, si vous voulez. C'est touchant, moi, je trouve. Et ce Dieu qui dit, ben, je ne peux pas les laisser comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Alors là, on va pouvoir le voir, là encore positivement ou négativement, hein, bien sûr, cette réaction de Dieu. Parce que parfois, ça peut être pour corriger le tir quand l'homme est pécheur. Parfois, c'est pour passer à l'étape suivante, si vous voulez. De donner une impulsion pour que, ben, on aille plus loin. Que, voilà, c'est comme ça qu'il appelle des prophètes, c'est comme ça qu'il appelle... À mon avis, qu'il appelle le Christ. Le Christ n'est pas simplement un pompier qu'on appelle parce que tout va mal, si vous voulez. C'est, à mon avis, en Christ, d'ailleurs, c'est comme ça que nous le présente Jean dans son évangile. C'est, en Christ, il y a une deuxième étape de la création, une étape nouvelle, une étape formidable. Donc, ce n'est pas simplement le Christ pompier, c'est tout d'un coup, voilà, Dieu intervient pour apporter une dimension supplémentaire. Une dimension supplémentaire dans sa création, dans la vocation de l'homme. Alors on peut le voir là encore de ces deux façons, le récit qui va suivre.
Alors ce qui est intéressant, si on regarde de près le vocabulaire du Seigneur, de l'Éternel, le rédacteur est quand même un excellent conteur, mais si on regarde bien, il est très intéressant de comparer le dialogue entre les hommes et le dialogue à l'intérieur de Dieu. Et j'ai envie de dire, si j'étais un brin provocateur, je dirais que la Trinité se trouve déjà à l'œuvre dans cet éternel-là. Parce que, regardez, il y a un dialogue intérieur, hein, il discute, il regarde, il commente, il se commente. Et alors là, dans un nous de majesté, il emploie les mêmes termes. Allons, descendons et brouillons, comme si c'était un plan avec toutes ses forces internes. Et donc l'Éternel discute, l'Éternel projette, il y a un conseil, hein, on se trouve là, on croirait du Bérulle, hein, il y a un conseil dans la maison de Dieu, et donc les ministres décident d'un plan d'austérité, d'un plan de retour à ce qui devrait être. Et donc, évidemment, et comme par hasard, tout ce que les hommes avaient voulu éviter, voilà que Dieu le leur inflige en punition de ce qu'ils ont fait pour éviter cela. J'allais dire donc que tout ce qu'ils ont cru bon de faire pour se protéger les a précipités dans leur chute. C'est assez étonnant. Et donc voilà, donc le but c'était de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? On les disperse sur toute la surface de la terre. Le but c'était de garder cette langue. Eh bien on brouille la langue de toute la terre. Et du coup, on donne le nom de Babel, de brouille en hébreu, j'allais dire, alors que c'était de la porte de Dieu, alors qu'on montait vers le Seigneur. Voilà que le Seigneur, explose tout le projet. Et ça, c'est assez intéressant parce que il y a aussi quelque chose sur le dialogue entre l'homme et Dieu. Finalement, on n'accède pas à l'Éternel de la façon que l'on choisit. Les hommes ont décidé de se mettre à hauteur de Dieu, j'allais dire, pour être en face à face, les yeux dans les yeux. Mais le Seigneur, il descend et il rétablit, je dirais, la différence, en quelque sorte. Donc, on retrouve ce conflit qui est le conflit déjà de même ordre avec le premier homme. En Adam et Ève, avec toujours ce mystérieux serpent qui crée la zizanie, qui sème le problème entre l'homme, l'Adam et Dieu, en voulant justement donner des secrets et en voulant aplanir la différence entre homme et Dieu. Et on retrouve, j'allais dire, le chaos initial, enfin le chaos provoqué par la chute. Donc, on a l'impression que c'est un nouveau recommencement, mais qu'il faut de nouveau redémarrer, et que avec Babel, faut tout recommencer. Faut de nouveau tout recommencer, comme si au fond il y avait des chutes successives. Hein. On était parti avec donc le Adam et Ève, avec Cain et Abel, avec Noé et ses fils. Et puis voilà, et nous voilà à Babel, paf, une impasse, une nouvelle impasse. Et heureusement, j'allais dire, et heureusement vient enfin la marche d'Abraham. Donc c'est comme si au fond il y avait des... on commençait par baliser tout ce qu'il ne faut pas faire. Et après il y a une voie qui s'ouvre, et comme par hasard elle est dictée. Elle est dictée, la vocation d'Abraham lui est totalement dictée par le Seigneur, dans une liberté qu'il éprouve pleinement jusqu'au sacrifice, à la ligature de son propre fils. C'est-à-dire que c'est comme si tout ça, c'était les prémices, en fait, les prémices de la voie humaine, qui ne sont plus les fils d'Adam, mais les fils d'Abraham. Et le Christ vient parfaire, j'allais dire, vient compléter par le schéma le plus parfait, qui est du coup, à force d'être l'intervention de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se fait homme pour que l'homme soit Dieu. Et au fond, on a l'impression que avec toutes ces balises qui sont placées devant nous, au fond, la seule voie devient Christ. Lorsque, en regardant toutes ces étapes, on voit que tout le reste conduit à des impasses. Et là, ça devient très intéressant.
Oui, merci. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on avait tendance à dire dans la première partie que si péché il y a, c'est celle de la tour avec une rébellion contre Dieu, en voulant prendre la place de Dieu, finalement, et que l'industrie humaine soit tournée contre Dieu. Mais visiblement, ce n'est pas ça le problème, parce que quand Dieu regarde là, il ne dit pas, mais qu'est-ce que c'est que cette épouvantable tour, cette prétention terrible, et ils disent, ben non, le problème, en fait, c'est la ville. Le problème, ce n'est pas tellement la tour, Dieu n'y touche pas. Il dit, bon, il y a une tour. Mais en fait, le problème, qu'est-ce qu'il fait? Il est dispersant et il se sert de bâtir la ville. Donc finalement, c'est ça un petit peu la question. C'est le fait qu'ils soient tous ensemble. Le problème, finalement, le péché, c'est peut-être bien le verset 1, finalement. Toute la terre avait une seule langue et un même mot. Ça, c'est un problème. C'est la pensée unique, en fait. C'est la pensée unique, et d'être tous au même point, avec un seul projet, une seule langue, etc. Et donc, il n'y a plus de vis-à-vis, quoi. Il n'y a plus de dialogue vrai, réel, puisqu'ils sont tous hyper d'accord. Et ça, peut-être que c'est un problème, comme tu le disais, dans notre société, où quand on remarque, on voit les enfants sortir du lycée, ils sont tous absolument habillés pareil. Vous regardez les voitures dans Paris... Elles ont toutes absolument la même couleur, quoi, et la même forme, en fait. On ne sait plus si c'est une Peugeot, une Citroën ou une Toyota. Elles sont toutes grises, métallisées. Quelquefois, j'exagère un peu, mais presque quand même. Il y en a une orange dans la rue qui est stationnée depuis quelques jours. On dit, tiens, une voiture orange, mais... voilà, donc heureusement, il y a des gens qui sortent un peu du lot, mais... Non, mais globalement, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a ces stéréotypes qui est le risque d'une mondialisation aussi, où on se met à avoir une seule langue, une seule pensée. C'est peut-être le risque aussi dans nos sociétés, dans nos églises, si vous voulez. C'est le risque de l'intégrisme, où on veut qu'il n'y ait plus qu'une seule pensée, qu'un seul dogme, un seul rite, une seule façon. Ça, c'est le risque. Alors... Il y a forcément, mais en même temps, bon, on ne peut pas être dans le chaos et la dispersion totale. Donc, c'est pas. Là encore, tout est une question de curseur, tout est une question de degré, de niveau, de savoir là où on en est à un moment donné de son existence. Et peut-être qu'une église où on est un peu plus pris en charge, où un peu, c'est un peu plus cohérent, ben, va peut-être convenir à certaines personnes, et puis d'autres ont besoin de choses un peu plus chaotiques ou un peu plus individuelles. Ça dépend où on en est. Mais je crois que là, ce qui est critiqué quand même, c'est l'idée de s'il y a un péché, c'est celui de la pensée unique. Voilà. Ça, c'est pas possible. Et Dieu dit, bon, ben, j'espérais une humanité réconciliée, mais là, c'est too much, si vous voulez. Donc là, c'est trop. Et quelque part, à ce moment-là, Babel serait le pendant de Caïn, Abel et Noé, avec une humanité qui est violente, qui se tape les uns sur les autres et qui meurt les uns par les autres, finalement. Là, c'est l'inverse. C'est une humanité qui meurt d'une trop bonne entente, de trop de fusion. Voilà. Alors, on pourrait dire, dans le couple, c'est pareil. Si vous voulez un couple qui est complètement fusionnel, on fait absolument tout ensemble, on est complètement d'accord sur tout, c'est pas forcément non plus l'idéal et le modèle. C'est voulu que ce soit un peu plus compliqué que ça, finalement. À mon avis, s'il y a un péché, c'est bien celui-là, dans ce texte.
Oui, tout à fait. Et pour aller dans ce sens-là, vous savez, on cherche toujours l'unité, c'est une très bonne chose. Et je crois dans l'Église, dans les Églises, c'est une très bonne chose et qu'on fasse des choses vraiment dans un sens, mais dans la diversité, dans nos différences et en respectant précisément les apports mutuels, les complémentarités. Et je crois qu'il y a un passage qu'il conviendra de lire en sortant d'ici ce soir ou dans les jours qui viennent, c'est d'aller regarder dans les Actes des apôtres le récit de la Pentecôte. Et on a souvent dit que c'était la réconciliation d'après Babel. C'est cette idée que voilà des hommes qui sont très différents. Ils sont réunis et l'esprit les unit. Et voilà qu'il en vient de partout, on nous décrit les Parthes, les Mèdes et autres, Élamites et autres provenances de toutes les régions du Moyen-Orient. Et voilà que l'esprit les unifie. Mais ils ne ressortent pas en n'ayant plus qu'une seule langue, c'est que simplement ils se comprennent dans leurs différences. C'est-à-dire que, gardant les spécificités de chacun, les cultures, etc., on arrive à se comprendre, à dialoguer, à se parler et à construire ensemble, mais pas en ayant un seul chef, un seul, je ne sais plus comment on disait, une seule patrie, un seul régime, un seul ordre ou je ne sais quoi, mais au contraire, en ayant une unité dans toutes nos diversités. Et je dirais, c'est un petit peu ce qui doit exister d'un point de vue individuel, c'est-à-dire faire l'unité en nous-mêmes, mais pas en éliminant toutes nos différences, j'allais dire toutes nos capacités, mais au contraire, comme un chef d'orchestre, en les faisant fonctionner au maximum, non pas en devenant neutre et parfaitement sans aucune aspérité ni aucune inventivité, au contraire, en réussissant à faire fonctionner ensemble. Et je crois que c'est en cela que, entre le verre à moitié vide ou à moitié plein, je crois qu'en effet, on peut mettre l'accent là-dessus, sur l'idée que cette uniformisation, cette volonté à tout prix de se mettre tous ensemble pour ne plus avoir aucune différence, conduit inévitablement à un totalitarisme, à l'absence de débat, de dialogue et de différence qui sont précisément, je crois, le sel de la vie, c'est-à-dire justement, comme dirait Paul, là encore, que l'on fasse jouer tous les dons les plus multiples. Et il n'y en a aucun d'entre nous qui a reçu exactement les mêmes que son voisin, que sa voisine, que sa promise, que son promis, que voilà. Et donc, tu parlais de couple, mais c'est justement le respect des différences, des séparations, etc., et non pas la fusion qui détruit tout, qui ne conduit qu'à l'échec. Hein. Hélas, on ne le voit que trop dans bien des divorces. Et je crois que Babel, c'est un peu tout cela. C'est ce garde-fou, c'est l'idée qu'on peut se comprendre, l'idée qu'on doit, c'est très bien l'échelle mondiale, c'est très bien qu'on sache ce qui se passe aux antipodes, qu'on puisse aller à New York, à Acapulco ou à je ne sais où, réjouissons-nous, mais pas pour qu'on porte le même jean partout dans le monde ou qu'on emploie le même volapuc ou je ne sais quelle langue barbare. Non, respectons nos cultures, nos différences et travaillons ensemble. Et je crois que l'Europe ferait bien de bien lire Babel pour éviter justement les écueils qu'elle rencontre que trop, parce qu'elle fait une uniformisation financière, je ne sais quoi, mais qu'elle oublie justement de faire fonctionner toutes ces différences et toutes ces richesses en essayant de créer un espèce de moyen européen qui ne marche pas. Je crois que c'est un texte finalement très actuel.
Et qu'on a le droit d'aimer le camembert au lait cru.
Oui.
Ah oui.
Donc si vous voulez, je crois qu'effectivement c'est par l'unité quand même. Pour aller dans ton sens, à la Pentecôte, il n'y a pas une seule énorme grosse flamme qui tombe sur tous les apôtres d'un coup. Et le texte insiste beaucoup, hein, dans Acte 2, sur le fait que cette flamme, cet esprit qui est donné, il se sépare et que chacun reçoit une petite flammiche, une petite flamme en fait. Chacun sur sa tête. Donc ce n'est pas une énorme grosse flamme, c'est chacun à sa petite flamme. Et le modèle, à mon avis, par exemple du livre des Actes, mais on le voit mieux dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 avec Paul... C'est pas tellement l'unité, je veux voir qu'une tête, c'est plutôt l'union. L'union dans un corps, et Paul insiste beaucoup sur cette diversité des membres de vocation, etc. Et puis qu'il y en a des petits, des un peu honteux, et puis des hyper glorieux, mais ça n'empêche, tout le monde a besoin de tout le monde, il y a une compassion, il y a une vocation qui est propre à chacun, et c'est plutôt une union dans la différence que l'unité. Parce que peut-être que l'unité, par exemple... Dans l'unité des dogmes, si on a tous exactement le même dogme, eh ben on se dit, ben voilà, ça y est, j'ai enfin fait le tour de qui est Dieu. Voilà, parce qu'on est tous d'accord entre nous. Ben donc Dieu, c'est bien ça. Il n'y a pas une voix discordante. Donc ça y est, je tiens Dieu, il est là, il est dans ma main. Et c'est à ce moment-là que finalement, eh bien, pouf, tout d'un coup, Dieu nous échappe et on n'a plus qu'une idole dans les mains. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on a construit effectivement une tour arrogante qui monte jusqu'au ciel en disant, ben ça y est, j'ai obtenu Dieu, je le tiens, par la barbichette. Et ça, c'est quand même un peu ennuyeux, c'est un peu un problème, et que dans cette diversité, c'est là que les Juifs nous ont appris ça. Je crois qu'il faut redécouvrir cette culture du dialogue, du débat et même de la dispute. Quand en français, on dit se chamailler, ça vient de Chamaï, qui était un des grands rabbins qui se disputait avec Hillel, qui était le maître de Paul. Donc quand on voit le Talmud, le Midrash, C'est un récit de chamaillerie absolument invraisemblable. Ils se disent, mais Rabbi machin pense ça, l'autre lui dit, mais c'est complètement nul, je pensais tout à fait l'inverse. Donc, dans la pensée juive, c'est cette diversité des témoignages, diversité des interprétations contradictoires qui rendent justice à la gloire de Dieu. Parce que, de toute façon, toutes les interprétations sont un petit peu fausses et que c'est quelque part dans le creux, finalement, qu'on peut découvrir vraiment Dieu. Alors donc, oui, on peut y voir ça, un péché dans cette unité, cette uniformité, un appel à redécouvrir que l'union, le projet de Dieu, c'est l'union, c'est pas l'unité, c'est vraiment ce dialogue entre nous, mais pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait individu avec une personnalité. Alors, je disais que c'était aussi quelque chose peut-être de positif, à l'inverse. On peut le lire que, ben voilà, enfin... L'humanité a compris le message. Ils arrêtent de se taper dessus. Ils ont sont capables de dialogue entre eux, de bons projets, de poursuivre l'œuvre de la création, de bâtir une ville où on demeure. On demeure ensemble avec une place centrale pour cette verticalité, cet effort de Dieu au milieu. Eh bien, Dieu leur dit, écoutez, maintenant, on va passer à la deuxième étape du programme. Vous avez bien pigé le truc. Ben, maintenant, vous allez remplir la terre avec ça. Voilà. Vous allez enfin porter ça et faites de toutes les nations des disciples, comme dirait l'autre. Vous serez mes témoins. Et je crois que oui, on passe à l'étape supplémentaire en disant, ben maintenant, voilà, c'est à la limite, on pourrait dire au meilleur des paroissiens le dimanche, et qu'est-ce que vous faites à perdre votre temps ici, le dimanche matin, à venir à l'église alors que vous êtes déjà au top? Eh bien, écoutez, allez plutôt porter la bonne nouvelle chez les papous ou je ne sais pas où. Mais voilà, c'est le temps de passer de la consommation à la production. On pourrait voir ça comme ça. Voilà, maintenant, c'est le temps de porter ça. Alors ça, on peut le voir parce que Babel, ça peut vouloir dire émietter, dans un sens. On pourrait comprendre ça comme ça, mais le verbe hébreu, c'est plutôt celui qui est utilisé pour mettre du levain dans la pâte, en fait. C'est mêlé, c'est mélangé, et c'est le terme technique de celui qui est mettre du levain dans la pâte. Donc voilà, cette humanité, on peut la comprendre comme étant le sel de la terre, un levain pour la terre entière, pour porter ce message centré sur l'union avec son prochain, reconnu comme prochain grâce à Dieu, et puis cette place centrale pour Dieu dans nos constructions.
Voilà, mais il me semble que ce soir, on a montré que justement, il était intéressant d'avoir une lecture plurielle et que à chaque fois qu'on avait un texte de cet ordre-là, il ne fallait surtout pas considérer qu'on tenait un acquis par une interprétation ou l'autre. Et vous avez vu ce soir que l'interprétation de Marc différait un peu de la mienne, mais j'allais dire, un autre soir, on pourrait échanger tout aussi facilement, je l'espère. Et je crois que la diversité précisément des lectures, et aussi la vôtre, sont une richesse et que cela doit nous inciter à partager et à ne pas la garder pour nous, mais au contraire à échanger, à dialoguer. Donc nous allons poursuivre nos disputes. La prochaine fois, nous nous retrouvons à Saint-Eustache, autour de Jéricho, où là aussi, on verra que le rempart de la ville s'écroulera, avec aussi un certain nombre de rêves. Là aussi, on pourra regarder l'aspect un peu historique et mythique de l'histoire, mais aussi ce que l'on peut retenir sur ces villes-refuges, ces villes-obstacles. Et là encore, on verra que la ville continue de progresser, puisque, on le verra, au fil de l'avancée des livres, la ville prend son importance telle qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà, donc très bonne soirée à tous. Merci à Marc de nous avoir accueillis ce soir, et à très bientôt.
Oui, au revoir.